Madame Delmas, alors nous allons maintenant aborder le débat d'orientation budgétaire pour 2017 et le rapport sur la situation en matière d'égalité entre hommes et femmes.
Merci, Monsieur le maire. Tout d'abord, des données générales, le contexte macroéconomique. Le projet de loi de finances 2017, présenté dans le comité des finances locales, s'inscrit dans un contexte économique marqué par une croissance du PIB évaluée à 1,6% pour 2017 et une inflation évaluée à 1,4% pour 2017. La volonté du gouvernement d'associer les collectivités territoriales à l'effort de redressement des comptes publics se traduit dans le projet de loi de finances 2017 par une réduction des dotations de l'État aux collectivités locales d'un montant de 2,63 milliards d'euros pour 2017. C'était 3,67 milliards en 2015 et 2016. Cette baisse de recettes se répartit entre les différents niveaux de collectivités selon la clé de répartition suivante. Donc, pour le bloc communal, commune plus PCI, 1,03 milliard d'euros. Pour les départements, 1,148 milliard d'euros. Et pour les régions, 450 millions d'euros. En ce qui concerne la péréquation horizontale, le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales, le FPIC, resterait plafonné à 1 milliard d'euros. De nombreuses modifications seront certainement apportées au PLF 2017 avant son adoption définitive au cours du mois de décembre. Pour notre commune, les mesures engagées depuis 2012 se sont concrétisées par une baisse du montant annuel de la DGF de 2 329 820 euros. Donc, pour mémo, nous avions en 2012 une DGF de 4 746 260 euros. Et nous prévoyons une DGF en 2017 de 2 417 440 euros. Nous avons également une hausse du prélèvement opéré au titre du fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales de 1 267 084,96 euros. Et vous avez un tableau qui vous retrace l'évolution de ce prélèvement depuis 2012. Nous passons à l'analyse de la situation financière de la collectivité et bien sûr les orientations 2017. Le budget primitif 2017 sera voté le 13 décembre 2016. Les comptes de l'exercice 2016 n'étant pas arrêtés à ce jour, les résultats pour 2016 sont établis au vu des tendances constatées à la date du 26 octobre 2016. Pour le fonctionnement, les ressources de gestion se décomposent en recettes fiscales, dotations et participations et en autres recettes de gestion. Sur 2016, du fait de la baisse des dotations de l'État, ces recettes marquaient un ralentissement de près de 1 million d'euros. Donc, vous avez une répartition de ces recettes réelles de fonctionnement. Leur montant s'élève à 35,96 millions d'euros. Nous abordons tout d'abord les recettes fiscales. Elles se répartissent en contributions directes, c'est-à-dire les impôts locaux, la taxe additionnelle aux droits de mutation, la taxe sur l'électricité et les autres recettes fiscales. Le montant global pour 2016 s'élève à 29,55 millions d'euros. Et vous avez également une répartition de ces taxes. Pour les contributions directes, vous avez un tableau qui reprend la fiscalité directe de 2014 à 2016. Donc, les bases, les taux et les produits communaux. Donc, les bases entre 2014 et 2016 évoluent pour atteindre en 2016 439 700 euros. Pour les taux, nous avons 60,08 et ils étaient en 2014 de 58,34. Pour les contributions directes locales, nous avons donc un total des contributions directes notifiées qui passe de 23 132 607 euros à 25 929 824 euros. Pour la compensation COBAS, c'est stable depuis 2014. Et en ce qui concerne la dotation de solidarité communautaire, Elle est passée de 2014 à 80 950, en 2016 à 81 164. Donc vous avez également un tableau qui retrace entre 2014 et 2016 le montant des produits de taxes d'habitation, produits de taxes foncières bâties et le produit de taxes foncières non bâties. Pour les orientations 2017, conformément aux engagements formulés en matière de fiscalité, le budget primitif 2017 sera caractérisé par le maintien des taux à leur niveau de 2015. La variation de ces recettes étant limitée donc à l'effet base, c'est-à-dire à la revalorisation des bases existantes dans le cadre du projet de loi de finances et à la variation physique des bases, création de bases nouvelles par la construction ou la rénovation. Sur la base d'une hypothèse où la revalorisation des bases locatives prévues dans le cadre du PLF, qui est limitée à 1% pour 2017, et sur la base d'une croissance moyenne des bases physiques de 1,5% par an pour la taxe d'habitation, 2% pour la taxe pour la TFB et moins 3% pour la TFNB, nous obtenons un produit de contribution directe en 2017 prévisionnel de 26 624 166 euros. En ce qui concerne la taxe additionnelle aux droits de mutation, les recettes relatives à la taxe additionnelle aux droits de mutation fluctuent au rythme du marché immobilier. L'attractivité de notre territoire et le dynamisme du marché immobilier sur notre commune contribuent à un bon niveau de la taxe additionnelle aux droits de mutation pour l'exercice 2017. Les autres recettes fiscales correspondent aux impôts indirects qui sont, entre autres, la taxe sur la consommation finale d'électricité, les droits de place du marché et la redevance des mines. Pour les dotations, ces recettes correspondent aux dotations de l'État, aux subventions perçues de nos différents partenaires et aux compensations de fiscalité. Les dotations de l'État, et plus particulièrement la DGF, étaient des recettes certaines, mais relativement peu dynamiques jusqu'en 2012. Depuis cette date, et on l'a vu précédemment, ce montant attribué par l'État n'a cessé de chuter. Donc vous avez cette évolution à la baisse depuis 2012 jusqu'en 2016. Et pour 2017, et on l'a déjà abordé, la dotation globale de fonctionnement devrait poursuivre sa baisse engagée. Et nous prévoyons donc une diminution de 633 cas euros. Ce qui devrait donc amener la DGF pour 2017 à 2 416 000. Bien évidemment, ces données sont susceptibles de varier dans le cadre du projet de loi de finances, et les hypothèses liées à la répartition des efforts entre les différentes collectivités n'étant pas arrêtées à ce jour. Pour les subventions, elles correspondent pour l'essentiel au financement croisé perçu dans le cadre des politiques contractuelles engagées par la municipalité, le contrat en force avec la CAF, nettoyage des plages, etc. Pour les autres dotations, cela correspond aux compensations fiscales versées par l'État en contrepartie des exonérations en matière de taxes d'habitation et de taxes foncières et la dotation nationale de péréquation. Nous avons enfin les autres recettes courantes de gestion, chapitre 70, 013 et 75. Les recettes des services et du patrimoine retranscrivent d'une part l'ensemble des recettes payées par les usagers des services publics communaux, comme la LSH, la garderie périscolaire, l'aide aux devoirs, les spectacles culturels et redevances d'occupation du domaine public, et d'autre part les remboursements de charges par les budgets annexes, pôle nautique, île aux oiseaux ou EPIC, office de tourisme. L'offre de services en direction des usagers étant globalement orientée à la hausse, ces produits progressent à due concurrence. Les autres produits de gestion courante correspondent aux loyers des propriétés communales et des redevances payées par les titulaires de délégations de services publics. Le parc de locaux loués se caractérise par une relative stabilité. Les produits de la location fluctuent globalement au rythme de l'indice de révision des loyers. Les atténuations de charges correspondent au remboursement de charges sur les emplois aidés et au remboursement des assurances en matière d'accident du travail. En conclusion, sur les recettes de gestion pour les orientations 2017, compte tenu des tendances constatées antérieurement, mais également du contexte conjoncturel toujours contraint, les recettes de gestion prévues au BP 2017 seront particulièrement prudentes et se situeront à un niveau globalement proche du budget 2016. Pour les charges de gestion, elles se répartissent, elles s'élèvent en 2016 à 32,22 millions d'euros. Et vous avez un tableau qui vous décrit la répartition de ces dépenses de gestion. Comme vous pouvez le constater, bien évidemment, les charges les plus importantes sont les charges de personnel, parce qu'elles représentent 52% des dépenses de fonctionnement. Donc, nous vous avons fait un tableau récapitulatif de l'évolution de ces dépenses depuis 2014 jusqu'à prévision d'atterrissage 2016. Elles atteigneraient en 2016 16 210 000 euros, soit une variation de 162 943 euros. Dans un contexte caractérisé par la revalorisation statutaire, y compris celle des agents de catégorie C imposés par l'État, comme vous pouvez le constater, les charges de personnel sont maîtrisées. La volonté marquée de maintenir les effectifs à leur niveau actuel grâce à une rationalisation de l'organisation, qui a été rendue possible par le regroupement d'une fraction importante des agents, tant au niveau du pôle technique dès 2009 que au niveau de l'hôtel de ville depuis 2013. Vous voyez que vous avez une répartition par sexe et par âge dans le tableau qui vous est présenté. Cette population est d'un âge moyen de 47 ans. Nous avons 397 agents titulaires et stagiaires de la fonction publique territoriale. Nous en avions 407 en 2015, et cela représente 388 équivalents temps plein. Cette population est composée de 204 femmes, nous en avions 209 en 2015, et de 193 hommes, nous en avions 198 en 2015. Et elle se répartit hiérarchiquement comme suit, en catégorie A, 10 femmes et 11 hommes, en catégorie B, 30 femmes et 28 hommes, et en catégorie C, 164 femmes et 154 hommes. En ce qui concerne le personnel titulaire, la parité homme-femme est respectée, tant du point de vue des effectifs que des catégories hiérarchiques. Donc là aussi, vous avez la pyramide des âges qui cumule donc les effectifs titulaires et non titulaires. Ainsi, les effectifs de la commune sont actuellement stabilisés et optimisés au sein des différents services et des différents budgets. Ces effectifs et le temps de travail en découlant ne seraient susceptibles d'évoluer significativement qu'en fonction des mutualisations engagées par la COBAS ou en fonction, bien sûr, d'évolutions législatives concernant le temps de travail. De plus, il est à noter que cette stabilisation des charges de personnel s'est déroulée dans un contexte marqué par la poursuite du programme de titularisation des agents contractuels, ainsi que par la promotion interne ou l'avancement de grade d'une quarantaine d'agents lors de la dernière CAP. Ces différentes décisions ont permis d'atteindre une réelle parité homme-femme, tant du point de vue, on l'a vu précédemment, hiérarchique, que du point de vue des filières. L'égalité homme-femme est ainsi strictement respectée. Au niveau de la rémunération que de l'accès aux emplois de direction. En 2017, le point indiciaire augmentera à nouveau de 0,6% au 1er février et les agents de catégorie A et C seront impactés par la refonte des grilles de rémunération. Donc pour 2017, dans le cadre de ces prospectives et par précaution, les charges de personnel sont évaluées à la hausse compte tenu de la cour parcours professionnel carrière et rémunération engagée par le gouvernement à hauteur d'environ de 2,5%. Nous passons aux charges à caractère général qui, elles, poursuivent leur hausse. Comme vous pouvez le constater, vous avez un tableau qui retrace donc l'évolution de 2014 à 2016. Donc, il est à noter la particularité en 2016, puisque le montant qui est indiqué de 8,8 millions enregistre 2,410 millions d'indemnités prévisionnelles à OxyFIP, comme nous l'avons vu précédemment dans la DM2. Pour 2017, les charges à caractère général seront fortement impactées par la résiliation du contrat de partenariat de l'hôtel de ville. Donc, puisque actuellement, l'indemnité réclamée est de l'ordre de 4,3 millions et en cours de négociation. Et d'autre part, par la provision des indemnités correspondant au contentieux des Hauts-du-Golfe, actuellement 1 million en cours de jugement. Pour les charges de transfert qui retranscrivent l'ensemble des subventions versées par la ville, CCAS, caisse des écoles, associations, compensation de la restauration municipale ou du stade nautique, mais aussi les contingents aux écoles privées, les admissions de créances en non-valeur ou les indemnités des élus. Vous avez également un tableau 2014-2016 qui vous démontre l'évolution donc de ces charges. Donc, ils seront à un montant prévisionnel en 2016 de 4 120 000. Les principaux postes sont ventilés comme suit. La subvention de fonctionnement versée au CCAS, qui représente plus de 60% de cette charge. Donc, vous avez en 2014, cette subvention au CCAS s'est levée à 2,2 millions. Et en 2016... elle devrait s'élever à 2,6 millions. Les subventions aux associations représentent le deuxième poste des dépenses. En 2016, il est prévu sensiblement le même montant que les années précédentes, 495 000 euros. Et enfin, nous avons en troisième poste important... la compensation tarifaire restauration scolaire et la compensation du service public du stade nautique. Et là, en revanche, comme vous pouvez le constater, vous avez une évolution à la baisse, puisque en 2014, nous avions un niveau de dépenses qui s'élevait à 629 850 et en 2016, nous prévoyons 490 000 euros. Les charges de transfert donc, pour 2017... sont prévus stables et donc à un niveau proche de 2016. Les atténuations de charges, elles, correspondent aux pénalités SRU, donc le Solidarité Renouvellement Urbain, et au FPIC, Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales. Les bases de ces deux agrégats ont fortement augmenté au cours des quatre dernières années, en raison d'une part de l'augmentation du seuil des pénalités. Vous le savez, en ce qui concerne le seuil imposé en logements sociaux est passé de 20% à 25%, et de la montée en puissance du FPIC. La ville de La Teste est contributaire nette dans ces deux dispositifs. Et là aussi, encore, on vous retrace cette évolution de 2014 à 2016. Les atténuations de produits donc passent de 343 000 à 646 000. En 2016, le FPIC a atteint son niveau de croisière correspondant à 1 milliard, on l'a vu dans le contexte des données générales au niveau national. Il en découle donc une charge qui avoisine les 400 000 pour la ville de La Teste. Et en ce qui concerne les pénalités SRU, pardon, la pénalité 2016 s'est élevée à 247 000, qui correspond à 1599 logements manquants, bien que le nombre de logements sociaux soit passé de 1041 au 1er janvier 2008 à 1623 au 1er janvier 2016. En ce qui concerne les prévisions 2017, le FPIC a atteint son rythme de croisière. Le montant donc prélevé devrait par conséquent fluctuer à un niveau proche de 400 000 euros par an pour la commune de La Teste de Buch. Sur la base du maintien des taux de croissance du secteur immobilier observé ces dernières années dans notre commune, les pénalités SRU brutes devrait se chiffrer approximativement à 320 000 euros par an. Toutefois, ce montant est susceptible d'être minoré chaque année du montant des surcharges foncières et des bonifications de prix de vente relatives aux opérations de logements sociaux réalisées au cours de l'exercice N-2. Ainsi, les pénalités SRU 2017 seront minorées de 40 000 qui correspond à la surcharge foncière versée en 2015 au foyer de la Gironde pour l'opération Le Clos de Castandé. Pour 2018 et 2019, la ville de La Teste de Buch devrait bénéficier également d'une minoration de ses pénalités en raison de la bonification du prix de vente du terrain d'assiette du foyer des jeunes travailleurs de la rue Henri Deurle. En conclusion des dépenses de gestion, compte tenu des contentieux évoqués précédemment, mais également du contexte réglementaire contraint, les dépenses de gestion prévues au BP 2017 seront rationalisées. Après avoir vu les recettes et les dépenses, nous abordons donc l'excédent brut de gestion, qui est la conjonction d'une évolution maîtrisée des charges et d'une croissance des produits de gestion, qui conduit de façon régulière à une augmentation de ce solde intermédiaire de gestion. Donc, on vous a retracé l'évolution 2014 à 2016. Évidemment, comme vous pouvez le constater, en 2016, il y a une diminution puisque nous avons enregistré donc les impacts contentieux. Pour 2017, une nouvelle minoration de la DGF fait subir également une baisse de l'excédent brut de gestion. Après l'excédent brut, nous avons les charges financières qui découlent de la structure de la dette de la collectivité, donc l'encours et les niveaux de taux. Nous avons un encours de dette, c'est-à-dire le capital restant dû, qui devrait s'élever en 2016 à 30 392 866 euros. Au cours de l'exercice 2016, compte tenu des niveaux de taux observés au cours de ce deuxième semestre, nous avons mobilisé deux prêts d'un montant global de 4 millions d'euros, donc à un taux avoisinant 0,80 sur 15 ans. Vous avez également la répartition par emprunteur, un tableau qui reprend la répartition par emprunteur. On vous indique également que le taux moyen est de l'ordre de 2,75%. Une très faible exposition à la hausse des taux puisque nous avons dans la structure de notre dette 92% en taux fixe. Et donc, comme le veut la réglementation en matière de présentation de la dette, vous avez le classement Schistler en 1A, donc les taux fixes simples, les taux variables simples avec des indices monétaires en euros. Vous avez également le profil de tombée d'amortissement dans le cadre d'un tableau. Pour les intérêts, les charges financières correspondent pour l'essentiel donc aux intérêts de la dette payée par la ville. Donc, ils ont évolué depuis 2014 selon le tableau qui est présenté. Donc, 2014, nous avions des charges financières qui s'élevaient à 507 000. En 2016, nous avons des charges financières qui s'élèvent à 904 000. Évidemment, ces charges enregistrent intérêt de la dette, la ligne de trésorerie et les charges financières sur prélèvement automatique. Elles ont augmenté suite à l'intégration de la dette PPP. Nous avons donc vu les intérêts de la dette, nous avons le remboursement du capital. Donc nous avons une variation, le capital donc évolue. De 2014, il s'est levé à 1,8 million. 2016, il serait de l'ordre de 2,1 million. Comme vous pouvez le constater, l'endettement reste maîtrisé. Il a permis de maintenir un niveau élevé des dépenses d'équipement tout en garantissant les équilibres financiers de la commune. Pour l'exercice 2017 et les années suivantes, nous sous réserve de la stabilisation des dotations, bien sûr, le stock de dette sera maintenu à un niveau proche de l'encours actuel. Après avoir vu les remboursements de la dette, nous arrivons à l'épargne. L'épargne brute, ou la capacité d'autofinancement, et l'épargne nette, l'autofinancement, sont les soldes intermédiaires qui mesurent l'épargne disponible pour l'équipement avant et après financement des remboursements de dette. Donc nous avons évidemment en 2016 une prévision d'épargne brute de 7,3 millions, donc qui évidemment enregistre l'impact contentieux par rapport à, si on le compare par rapport à 2015. Et nous avons une épargne nette qui devrait s'élever à 5 274 000 euros. Pour 2017, cette épargne devrait subir une nouvelle baisse proportionnelle à la baisse des dotations de l'État et se stabiliser aux environs de 6,5 millions d'euros, ce qui reste un niveau très correct. En ce qui concerne l'épargne nette, c'est-à-dire l'épargne hors produit de cession, elle devrait être environ de 4,2 millions. Nous passons à l'investissement. Les recettes d'investissement se décomposent en dotations, FC, TVA et taxes d'aménagement local d'équipement. Donc, vous avez l'évolution entre 2014 et les prévisions 2016. En 2015, ces recettes avaient bénéficié de l'apport du préfinancement par la Caisse des dépôts et consignations du FCTVA. Cette avance s'était traduite par un prêt de 15 mois à taux zéro. Ce prêt d'un montant de 1 571 200 a été encaissé au mois de décembre 2015 et remboursé en deux échéances identiques en décembre 2016 et il y en aura une en avril 2017. Ce mouvement de trésorerie apparaît au chapitre 10. En 2016, compte tenu du volume des dépenses d'équipement, le FCTVA a atteint les 2,5 millions d'euros. Parallèlement, les taxes d'urbanisme se sont maintenues à un niveau proche de 1,5 million d'euros. Pour 2017, le dynamisme de la construction sur le territoire testerin se traduit par une augmentation de la taxe d'aménagement. Cette taxe, perçue au titre des documents d'urbanisme, se maintient à un niveau particulièrement élevé sur la durée de ce mandat. Cette recette est évaluée à un rythme annuel de 700 euros par an. Le fonds de compensation de la TVA, FCTVA, est proportionnel aux dépenses d'équipement mandatées au cours de l'exercice précédent. Le niveau des dépenses d'équipement étant toujours très soutenu en 2016, l'estimation de recettes attendue sur 2017 est évaluée à 2 millions d'euros. En ce qui concerne les subventions de l'État du département de la Gironde et de la Cobasse, nous avons donc des subventions qui sont en diminution, qui passent en 2014 de 1 100 000 à 810 000 pour 2016. En 2017 et les années suivantes, les projections en matière de subventions sont réduites au solde de la subvention COBAS pour le passage inférieur-bisserier, le FDEC du conseil départemental, aux amendes de police et une enveloppe prévisionnelle de 150 000 euros liée au futur équipement. En ce qui concerne les cessions d'immobilisation, terrain bâti, non bâti, véhicules, matériel, donc nous avons une variation de 557 000 en 2014 à 200 000 en 2016. Pour 2017, les projections intègrent entre autres le terrain Gallieni, qui a été reporté, hein, puisque nous ne l'avons pas perçu en 2016. Et la cession des actions Semlat, donc pour un global de 7 millions d'euros sur les deux cessions. Nous arrivons aux dépenses d'équipement. Les dépenses d'équipement évoluent toujours à un rythme soutenu. Elles se caractérisent notamment par la poursuite des opérations d'aménagement urbain et par l'aménagement et le renouvellement des bâtiments du pôle technique. Nous vous avons retracé également le niveau des dépenses d'équipement, et vous pouvez constater le niveau très élevé depuis 2014, 14 millions, 17 millions et 14 millions prévus en 2016. Donc nous avons, ce sont les dépenses engagées non soldées à la date du 31 octobre. Qu'est-ce qui est prévu pour 2017 ? Toujours dans la continuité d'une politique ambitieuse et dynamique d'investissement au service de la population, les dépenses d'équipement sont estimées à environ 15 millions d'euros. Donc, elles comprennent principalement des opérations dites bâtiments, telles que l'aménagement du troisième lieu à la Villa Vertamont, la construction de l'épicerie sociale, la réhabilitation du théâtre Cravé, la construction d'un bâtiment de stockage et l'aménagement du pôle technique, la poursuite du programme d'accessibilité au PMR, évidemment des opérations de voirie telles que le CREM, éclairage public, l'aménagement du cœur de ville, la deuxième phase, l'aménagement du rond-point des Arbousiers, la poursuite du programme d'accessibilité, ainsi que le décrit cet inventaire non exhaustif, une part significative des opérations prévues dans le cadre du budget 2017 vise à améliorer l'ensemble des mobilités sur notre territoire. En effet, après avoir créé de nouvelles liaisons entre les différents quartiers, il convient de poursuivre le programme d'amélioration des axes de circulation par la prise en compte de modes de déplacement doux, par l'amélioration et le développement des outils de prévention et par la prise en compte des différents usagers sur l'espace public. Nous arrivons au budget annexe. Les budgets annexes déclinent chacun une compétence particulière de notre commune. Nous en avons trois, budget annexe du pôle nautique, le budget annexe du parc des expositions et le budget annexe de l'île aux oiseaux. En ce qui concerne le budget annexe du pôle nautique, il doit permettre en 2017 de poursuivre et d'améliorer le service rendu aux usagers de la halte nautique de Cazaux et des zones de mouillage des corps morts. Les ressources de ce budget étant contraintes du fait d'une occupation proche de 100%, tant au niveau de la halte nautique que des zones de mouillage, les dépenses d'exploitation de ce budget sont de facto maintenues à un format équivalent au budget annexe existant en 2016. En ce qui concerne le parc des expositions, il est entré en 2014 dans une troisième phase suite à la renégociation de la délégation. Le budget 2017 maintiendra les objectifs fixés antérieurement, à savoir garantir le remboursement du prêt qui a financé l'acquisition du parc en 2004, garantir l'amortissement de cette immobilisation et financer la taxe foncière à charge du propriétaire. Et enfin, pour le budget annexe de l'île aux oiseaux, il doit permettre la gestion de l'île conformément aux dispositions prévues dans le cadre de la convention avec le Conservatoire du littoral. Les recettes des AOT et la subvention pour l'emploi des gardiens doivent par conséquent financer l'ensemble de ces objectifs. Voilà, en conclusion, les orientations budgétaires 2017 se caractérisent par des prévisions prudentes qui incluent les dépenses à caractère exceptionnel, on l'a vu, les indemnités contentieuses, mais aussi elles marquent la poursuite d'une politique ambitieuse d'investissement afin d'apporter des équipements structurants à notre commune. Le dynamisme des recettes fiscales conjugué à la maîtrise des dépenses de fonctionnement permettra d'une part d'amoindrir l'impact des baisses des dotations de l'État, mais aussi de dégager une épargne de bon niveau. Ainsi, le recours à l'emprunt sera modéré, les grands équilibres respectés.
Merci, Madame Delmas. Donc, je propose d'engager le débat. Monsieur Davé, Madame Guano et Monsieur Pradérol.
Merci, Monsieur le maire. Nous avons décidé d'un accord commun, notre équipe, notre groupe, en période de primaire de la droite, donc notre famille politique, de ne pas débattre. Je vais donner quelques chiffres parce que on ne peut pas ne rien dire, mais voilà, nous aurons l'occasion le 13 décembre, à l'occasion du budget, de s'exprimer un petit peu plus en détail. Donc les deux, trois chiffres que je souhaite donner, ce sont des chiffres que l'on voit évoluer au cours des années. Ce sont des chiffres que je donne à chaque fois. Et c'est un tout petit comparatif, enfin un comparatif des éléments qui ont été donnés. Et on voit bien hein, ce que je dis depuis plusieurs années. Je prends nos trois chiffres, l'encours de la dette, sur les recettes réelles de fonctionnement qui passent de 42 à 81%, ce qui est logique, puisque nous sommes passés en 2013, nous avions 15 millions d'endettement, on est à 30. Alors, il y a des choses qui sont faites, bien évidemment, mais les faits sont là aussi, hein, l'endettement est là. L'encours de dette sur la population, où nous passons de 534 euros en 2013 à 1122 toujours par habitant, et le dernier chiffre, donc ce sont les produits des impositions directes toujours par habitant, nous passons de 800 à 1000 euros, donc on voit bien qu'il y a une évolution aujourd'hui, à la fois de la dette, à la fois de l'imposition. Voilà, c'est tout ce que nous dirons pour ce soir, on ne souhaitait pas rentrer dans ce débat, nous sommes malgré tout majoritairement ici, autour de la table, des gens de droite, nous sommes nous-mêmes les Républicains. Donc il y a une primaire qui malheureusement semble depuis ce soir déraper, je le regrette fortement, on est surpris d'ailleurs de voir ce qui la font déraper. Donc pour ce soir, nous en resterons là.
Bien, ben, merci Monsieur Davé, nous ne débattrons pas. Donc Madame Coano.
Eh bien, ne faisant pas partie de votre famille politique, Je vais poser. Je vais identifier comme ça en tout cas. Et revendiquer au moins. Bien, je ne vais pas faire un grand discours parce que je n'ai pas l'habitude sur les chiffres. Ce sera simplement, puisque nous sommes à l'heure du débat, quelques questions et quelques éclairages sur ce que Madame Delmas donc, vient de nous lire avec beaucoup de patience. Hein. Sur deux points qui me tiennent à cœur, celui effectivement de l'environnement, économie d'énergie, vous mentionnez dans une opération de voirie le CREM, éclairage public. Hein. Je ne sais pas ce que c'est que le CREM. Voilà. Donc j'espère que quand vous m'en donnerez l'explication, je pourrai voir que ça va nous permettre effectivement d'intégrer des dispositions en matière d'économie d'énergie, hein, qui sont, toujours, je l'espère, d'actualité pour notre commune, parce que à l'occasion de la lecture de ce DOB, les orientations en matière de politique environnementale ne sont pas clairement identifiées. Ensuite, le deuxième point, c'est celui, là encore, hein, dans un souci d'identification de ces orientations, c'est celui qui concerne l'effort à poursuivre en matière de logement social. Hein. Vous n'identifiez pas dans les orientations du DOB hein, les opérations qui pourraient s'engager dans les années à venir. Hein. Je pense que c'est un éclairage que la population pourrait apprécier d'avoir. Hein. Et puis, quelle est la part, vous n'identifiez pas également les lignes, vous ne mentionnez pas les lignes qui ont été attribuées à l'occasion du dernier conseil de COBAS sur la participation donc, de l'intercommunalité hein, et qui marque l'effort fait. Et la part de finalement participation à nos surcharges foncières ne fait pas l'objet d'une ligne identifiée. Donc, je trouve que c'est un manque, j'allais dire, dans l'expression d'une volonté politique de bien vouloir continuer à aller dans le sens du logement social. Voilà, je n'irai pas plus loin ni sur toutes les analyses sur les dispositifs gouvernementaux qui appauvrissent les communes. Merci.
Merci, Madame Coineau. Je répondrai après, Monsieur Pradérol.
Oui, Monsieur Hérol, d'abord, je voudrais vous faire part de ma stupéfaction quant à la teneur des invectives suite à une simple demande de recours.
Un acharnement, Monsieur
oui,
Pradérol.
Oui, mais j'y viens.
C'est un acharnement.
Je ne vous autorise pas à m'insulter.
Oui. Eh bien, je ne vous ai pas insulté. Alors, je ne vous ai
j'ai
pas insulté.
J'ai
c'est
engagé,
un acharnement, monsieur.
J'ai engagé depuis 2011, j'ai sollicité la justice de ce pays pour dénoncer ce partenariat, tout simplement. J'ai utilisé le droit, monsieur Hérol. La justice, il se trouve qu'elle m'a donné raison. Ça ne vous a pas plu, c'est le moins qu'on puisse dire, on s'en est aperçu. C'est vous qui n'avez pas accepté cette décision et vous avez fait appel deux fois et par deux fois...
Ce qui est mon droit. Et
tout à fait.
Et d'aller en Conseil d'État,
tout
c'est
à fait,
mon droit.
Tout à fait.
Et j'estime que je déforme tout les intérêts
fait.
Des Tesserins.
Et moi aussi, figurez-vous.
Eh bien, nous n'avons pas la même conception de la défense des intérêts des Tesserins.
Nous n'avons pas la même entrée.
Et c'est peut-être là, Monsieur Pradérol, c'est peut-être là où nos places respectives sont ce qu'elles sont.
Oh, ça, elles sont ce qu'elles sont. Vous voyez bien qu'à la Teste, vous avez beaucoup plus de facilité. Vous aurez toujours beaucoup plus de facilité à vous trouver là où vous êtes que moi. Bien.
Vous l'avez été avant moi.
Oui, mais
si
d'ailleurs, ça vous a...
Si je suis maintenant à cette place, c'est que je vous ai battu.
Oui, certes. Oui, oui. Pas que moi, d'ailleurs, mais oui. Donc, j'ai utilisé le droit. Par deux fois, vous avez contesté la décision. Par deux fois, vous avez été débouté. Je tiens à vous dire que vous continuez une troisième fois avec le Conseil d'État, mais depuis la première décision de justice, c'est pas moi qui attaque, c'est vous qui vous acharnez. Moi, je suis en défense chaque fois. Je suis en défense. Donc, moi, je suis en position de défense et de défense uniquement. Et je ne m'autorise pas à vous insulter et je ne vous autorise pas à le faire.
J'estime que je ne vous ai pas insulté.
Vous estimez.
Je pense que tout le monde est témoin. Si réellement
la salle est témoin.
Je peux m'excuser, mais je trouve que mes propos, que tout le monde a entendu, n'étaient absolument pas insultants. N'exagérez pas. Souvent, vos propos sont beaucoup plus limites que les miens.
Alors, vous me dites justement que vous nous avez battus et que nous avons été en situation dans cette commune. Et justement, je vous ai posé une question à laquelle vous n'avez pas répondu, parce qu'elle a trait à cela. C'est cette fameuse plaque de la commémoration. C'est ridicule, vous me direz. Mais pourquoi elle n'y est plus ? Parce que vous n'acceptez pas de voir un autre nom que le vôtre.
Est-ce que vous avez vu dans mes réalisations que je fais mets mon nom, etc.
Vous l'avez enlevé sciemment.
Mais non, monsieur. Pendant les travaux, je ne sais pas où c'est passé. Il y a eu des tas de travaux, puis voilà. Non, mais à chaque fois, ce sont des procès d'intention.
Ah, mais écoutez, je n'ai jamais vu une plaque commémorative disparaître sans que les gens s'en inquiètent. Alors, cela signifie donc que vous allez la faire remettre ? Cela signifie donc que vous allez la faire remettre ? Ah oui, bien sûr.
Et continuez vos propos parce que voilà, on est sur un débat d'orientation budgétaire.
Oui.
Et puis alors.
Bien, alors on est sur le débat. Hein, on y vient. L'environnement général qui présidera à la réalisation du budget 2017 s'inscrit donc dans la continuité avec une dernière ou avant-dernière baisse de la DGF programmée. Et un fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales qui atteint l'objectif fixé par le gouvernement. Il a été créé en 2012. Il devait, en 2016, atteindre 2% des ressources fiscales du secteur communal, soit un peu plus d'un milliard d'euros. On y est. Il faut quand même tout rappeler que ce fonds est un fonds de solidarité en direction des communes plus en difficulté, suite notamment à la suppression de la taxe professionnelle. Vous avez chaque année insisté sur la baisse de la DGF, mais vous avez fait référence aux primaires. Si l'alternance que vous appelez de vos voeux se concrétise en mai prochain, je crains que la situation ne s'arrange pas forcément. Aucun des deux finalistes, même des autres, des participants, n'a parlé de retour en arrière à ce sujet. Ils proposent même de conditionner le maintien de celle-ci un engagement pris par la collectivité à supprimer un certain quota de fonctionnaires territoriaux. Dans ces généralités, vous auriez pu mentionner quelques conséquences de la loi NOTRe qui sont favorables au bloc communal. Nous en avons parlé à la COBA. Je veux notamment évoquer les deux transferts de compétences qui concernent notre commune. Avec le transfert de la compétence tourisme à la COBA, ce transfert ne concernait pas a priori notre ville, puisque, comme vos collègues d'Arcachon et de Gujan-Mestras, vous avez choisi de bénéficier de la dérogation pour rester autonome au titre de notre statut de station classée. Cependant, il fallait créer un office de tourisme communautaire pour intégrer la ville d'Utrecht, qui, elle, ne bénéficie pas de ce label station classée. Le budget de cet office de tourisme a été prévu à hauteur de 110 000 euros. Alors, vous avez décidé, au motif de mutualisation, de faire prendre en charge par la COBA 110 000 euros de frais de personnel pour chacune des trois autres villes, dont la Teste de Buch, bien sûr. Je l'ai déjà dit lors du dernier conseil communautaire, n'y a-t-il pas un certain paradoxe à d'un côté demander à déroger au cadre général de mutualisation et en même temps à demander le bénéfice d'une part de mutualisation qui d'ailleurs n'en est pas une. C'est strictement ce que j'ai dit. Bref, de toute façon, cela constitue pour la ville de la Teste un gain de frais de personnel de 110 000 euros pour la commune. Autre transfert lié à la loi NOTRe, celle des zones d'activité économique pour l'entretien et la gestion des voiries et réseaux divers. On peut évaluer le gain à hauteur de 80 000 à 100 000 euros par moyenne un an. Bien sûr, nos moyens les plus importants nous viennent des recettes fiscales que vous avez su dynamiser par une opportune hausse des taux en début de mandat et par un engagement sans faille en faveur de la promotion immobilière. Vous pourrez me répondre, monsieur le maire, vous pourrez me répondre.
Chaque année, je vous rappelle, vos 7 ans de gestion avec une augmentation des taux qui n'ont rien à voir avec les nôtres. Alors, bon, écoutez, ça c'est exactement comme le reste.
Vous allez remonter au 18e siècle si ça continue?
Ben, on peut remonter avant si vous voulez.
Oh, je sais pas, si on a les éléments. Donc, résultat, une prévision de recettes fiscales à hauteur de 26 624 000 euros en 2017. Après 25 930 000 en 2016, soit 700 000 euros quand même supplémentaires. Vous consacrez deux tableaux à la baisse de la DGF pour mettre en exergue le cumul de la baisse depuis 2002 qui s'élève à 2 300 000 euros. Je vous suggère de réaliser le même tableau avec les recettes fiscales depuis 2012, avec l'objectif de cumuler la hausse. Vous ne serez pas déçus. S'agissant des charges, vous évoquez des hausses significatives pour les charges à caractère général, que vous expliquez dans un premier temps par la mise en service de nouveaux équipements, qui pour certains ne sont pas si nouveaux que cela, je pense au stade nautique et aux nouvelles écoles, mais aussi par de nouveaux services en faveur de la population testerine, mais il n'y a pas d'énumération. Alors vous y intégrez les indemnités Auxifip pour 2 410 000 euros. Ces hausses nous amènent à un montant de 8 800 000 contre 6 300 000 l'an passé, soit une progression de 2 500 000. Eh bien, ces 2 500 000 correspondent tout simplement aux indemnités Auxifip. Donc, on comprend pourquoi les nouveaux services en faveur de la population n'ont pas été listés. Soit ils n'existent pas, soit ils existent peu. S'agissant de la dette qui dépasse 30 millions d'euros, celle-ci se caractériserait par un taux moyen de 2,75% après refinancement du PPP. Ce qui m'amène à vous poser la question: à quel taux prévoyez-vous de refinancer le prêt PPP? Si vous l'avez réalisé, ce serait intéressant d'en connaître le taux pour le comparer aux 3,74% du taux d'Auxifip. Vous avez évoqué des investissements pour 2017 qui sont présentés dans un objectif d'amélioration des mobilités, ce qui pourrait constituer effectivement un progrès. Il faudrait aussi, tout de même, ne pas négliger l'apport de l'ACOBA dans la réalisation de projets structurants, comme la future école Victor Hugo, comme les études pour la création d'un pôle multimodal à la gare de la Teste, mais aussi le cofinancement du tunnel Bisserier par l'ACOBA à hauteur de 25% du prix total. C'est tout de même plus d'1 500 000 euros qui ont été répartis sur les exercices 2015, 2016 et 2017. Ce qui nous fait, sans crainte de nous tromper, ce qui nous permet d'évaluer en moyenne, par année, le montant des investissements payés par la COMA sur la commune à 3 millions d'euros. Voilà, c'est loin d'être un détail. Je vous remercie.
Merci, M. Braderol. Madame Delmas, est-ce que vous avez des choses?
Ce que je veux dire quand même, Monsieur Braderol, c'est que votre dogmatisme coûte cash à la commune à ce jour un montant de 3 millions d'euros. Et ça, c'est tout de suite. Et c'est pas dans 25 ans, c'est pas hier, c'est cash, c'est tout de suite. Alors, grâce à des négociations âpres menées par Monsieur le maire, aujourd'hui, on a provisionné 2,4 millions, mais on n'est même pas sûr que ça soit à ce niveau-là. Après, vous faites état d'un taux de refinancement. À ce jour, on ne le connaît pas, bien sûr. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de volatilité sur les marchés. Là, en 8 jours, les taux ont remonté de presque 40 points de base. Et il ne faut pas se leurrer. Hein. L'indemnité, elle est faite pour compenser le préjudice financier de l'établissement bancaire. Donc, il n'y aura pas de gain pour la commune, bien au contraire. Hein. Non, il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Hein. Bien au contraire. Bien au contraire. Voilà. Alors, bon, moi, je resterai sur le plan financier, bien sûr. Bon, après, je ne sais pas, vos comptes, c'est toujours des comptes très curieux. Mais tant mieux, hein, si on va avoir 3 millions par an d'aide par la COBAS pour nos investissements, on prend, bien sûr.
Bien, écoutez, je vais essayer de répondre à quelques questions. Bon, M. Davé, donc j'ai compris que des papas et qu'on parlerait au niveau du budget, moi, ça ne me pose pas de problème. Madame Coineau. Alors, le CREM au niveau de l'éclairage public, alors bon, c'est un terme un peu barbare, c'est évidemment sur les abréviations, c'est pour un processus d'ensemble. J'ai compris que je n'allais pas me lancer pour une rénovation complète de l'éclairage public de la ville. Vous savez qu'on a un système obsolète. J'ai bien compris que je ne recommencerai pas de me lancer dans un PPP, hein, vu l'affection que porte M. Pradérol au PPP, alors que je ne prends pas le risque encore de contentieux et de coûts très importants pour la commune. Donc c'est un autre processus. C'est la conception, voilà, c'est le crème, c'est conception, réalisation, exploitation et maintenance. Bon, c'est une façon de contractualiser. On va contractualiser sur 6 ans. Donc, au niveau d'un projet global de la commune, où il va y avoir, dans les 8 millions d'investissements, où chaque année, environ 1,4 million d'investissements et 250 000 euros de fonctionnement. Voilà, donc c'est ciblé. C'est un processus assez long, quasiment une année de négociation, comme d'autres, si ça avait été un PPP ou comme ça, avec des CAO et tout ça. Et donc, le choix va se faire là maintenant, vendredi, je crois. Donc, les gens qui sont en CAO auront l'occasion de savoir quelle est l'entreprise qui va être choisie. Et donc, on va s'atteler donc dans cette rénovation, bien sûr, avec des points lumineux, des économes. On va pouvoir peut-être, évidemment, à certains endroits, baisser les intensités lumineuses. Ça s'accompagne aussi dans toute un travail qui est fait avec les enseignes, etc. Peut-être éteindre les enseignes de telle heure à telle heure. Enfin, il y a tout un tas de processus qui n'a pas été développé. Où c'est vrai, je comprends très bien, mais bon, c'est vrai que peut-être qu'au niveau environnemental, économie d'énergie, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, qui ne sont peut-être pas mises en valeur, expliquées, etc., etc. Alors, au niveau des logements sociaux, bon, vous savez quand même mon attachement à ça, tout le travail que j'ai mené au niveau du PLH avec la présidente, puisque c'est quand même nous deux qui avons essayé de négocier le maximum les choses donc avec les services de l'État. Ce matin, nous avions encore des réunions avec la DTTM sur la mixité sociale, hein, donc où on va avoir le contrat de mixité sociale validé avec les services. Bon, vous avez quand même vu que l'effort au niveau des logements sociaux est quand même important, puisque au début de 2008, il y en avait autour de 1000, et qu'on est quand même à plus de 1600 en début d'année 2016, et que nous continuons. Alors, c'est sûr que tout n'a pas été ciblé, mais vous avez vu que dans le PLH, l'effort qui est fait au niveau, bon, certes des 4 communes, hein, mais au niveau de la TES, l'engagement sur un nombre conséquent de logements sur lesquels on s'est engagé pour les 6 ans, hein, qui sont, vous avez vu, qui nous amènera à peut-être 600 logements de plus en 6 ans, et peut-être même plus, sera assumé, hein, parce que si je l'ai écrit, c'est que je l'assumerai, et peut-être qu'il y en aura plus. Voilà ce que je voulais vous dire au niveau de cet effort, de l'effort du logement social. Bon. Alors après, M. Pradérol, au niveau de l'histoire de l'EPIC, des ci, des ça, du budget communal, bon, l'Office du tourisme est un EPIC. Il a un budget propre, c'est pas le budget communal, le gain qui sera fait sera au niveau de l'EPIC. Hein. On ne va pas avoir de l'argent en plus dans le budget communal. Voilà, bon. Bon, certes, il était bénéficiaire, tant mieux pour les PIC. Ça n'a rien à voir avec le budget communal et vos élucubrations comme ça, voilà. Alors, après l'apport de la COBAS, ben, heureusement qu'il y a un apport de la COBAS. Hein, je tiens à vous dire que quand vous êtes arrivé aux affaires, hein, dans les années 2001, vous avez négocié donc avec l'État, et bien sûr, et puis les autres communes, hein, un passage du district en communauté d'agglomération. Bon, et à ce moment-là, la TES qui était en pleine expansion, qui avait une taxe qui avait les entreprises, hein, les taxes professionnelles qui venaient à la commune, qui étaient des taxes, évidemment, qui permettaient d'avoir des revenus complémentaires sont passés à la COBAS, à une communauté d'agglomération. Bon, mais nous avions une grande, évidemment, capacité de développement économique que nous assumons, qui est de plus en plus forte. Hein, et je vous signale que la contribution que nous avons amenée à la COBAS, qui, en péréquation, nous est versée, est toujours à la hauteur des années 2001, alors que le budget au niveau de la COBAS que la ville de La Teste apporte est sans commune mesure par rapport à 2001. Alors, quand nous touchons 3 millions d'euros, si ça
c'est
avait
normal,
peut-être été...
C'est normal.
Eh bien, si ça avait peut-être été négocié d'une autre façon à l'époque, on devrait en toucher beaucoup plus. Voilà.
Hein? C'est vous qui vous êtes mis d'accord sur l'égalité. Vous savez... actuellement,
2001,
sur ce mandat.
En 2001, j'étais pas aux affaires, monsieur.
Mais sur ce mandat...
Je vous félicite pas pour la négociation.
Sur ce mandat.
Parce que moi, j'aurais négocié autrement.
Mais non, vous pouviez pas négocier autre chose. Bon. Mais non.
Mais oui.
Mais non, c'était une obligation qui nous est faite par l'État. Alors, non, c'était pas... C'est pas
oui, il y avait le CIF à négocier, voilà.
Bon, oui, c'est tout,
éventuellement. Oui, bon, à chaque fois, vous présentez les choses d'une façon tellement caricaturale. Bon, écoutez, voilà. Non, on en est là. Maintenant, il faut pratiquement se prosterner en disant merci la COBAS, etc. Quand je pense ce que la commune de La Teste, par son dynamisme économique, apporte en recette à la COBAS, elle
mais
apporte
je suis d'accord,
beaucoup plus
mais
que
je suis d'accord,
communes.
Monsieur.
Eh bien, c'est normal.
Mais
que,
je suis d'accord.
C'est normal que les testerins en aient un retour.
Mais
enfin.
Mais qui a dit le contraire?
Oh, ben alors, vous avez presque.
Mais non, je l'ai souligné, point.
Mais en même temps. Vous avez l'air de minimiser ce que la commune.
Non,
vous le présentez mal.
Ce que je veux vous dire, c'est le principe d'égalité de perception au niveau des trois communes, moi, je le trouve discutable.
Oui, mais discutez-le à la COBAS. Exprimez-vous à la COBAS.
C'est vous les maires qui décidez là-dessus.
Vous votez contre et puis c'est tout. Si vous n'êtes pas d'accord à la COBAS, au lieu de faire... Bon, voilà. Écoutez... Voilà, ça, je crois que ça suffit parce que vous êtes toujours en train d'essayer de démontrer des choses qui sont parfaitement, à mon sens, fausses. Voilà. Bien, eh bien écoutez, je ne vais pas en dire plus, je pense que j'ai essayé de répondre aux plus grandes choses. Hein. Je vais vous demander, alors vous savez que c'est un débat d'orientation budgétaire, donc c'est un débat, mais il faut, prendre acte de la tenue du débat. Et voilà, donc je vous demande évidemment de prendre acte et êtes-vous d'accord que ce débat soit pris. Voilà, donc je pense que tout le monde est d'accord, y compris évidemment le rapport sur la situation en matière d'égalité entre hommes et femmes. Bien, tout le monde est d'accord, même si certains n'ont pas débattu. Oui.
Juste une petite boutade. En 2008, nous aussi, nous faisions partie de ceux qui avaient battu l'équipe en place.
Oui, non, mais je parle pas de... Je parle...